Nous allons retourner donc dans la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Marc. Comme vous le savez, depuis quelque temps, je suis l'évangile de Marc. Ça ne veut pas dire que je vais faire tout l'évangile de Marc jusqu'à la fin de l'année ou un peu plus, mais j'avais à cœur durant cet été de prendre cet évangile et de voir ensemble un petit peu, des fois quand on fait des suivis de la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a une logique, il y a une pensée qui est donnée au travers de certains chapitres qui sont donnés en tout cas. Et là, c'est flagrant, en tout cas, dans le chapitre 5, il y a une vie de victoire. Alors, comme je le disais la semaine dernière, nous avons vu la première partie de la victoire. Jésus a vaincu les forces naturelles, il a calmé la tempête, donc chapitre 4, versets 35 à 41. Et puis, donc, bien sûr, naturellement, on a vu une leçon. Si Jésus calme une tempête, j'imagine que c'est bon. Quand il y a des tempêtes, bien Jésus peut aussi les calmer. Voyant ce qu'il a fait là pour les disciples, j'imagine que c'est aussi dans nos vies, ce genre de victoire. Deuxième victoire, Jésus a vécu les forces du mal en parlant des démons. La semaine dernière, nous avons vu avec cet homme qui avait une légion, nous dit certains autres passages. Donc il a été libéré de ces démons et Jésus l'a vraiment libéré totalement, puisqu'à un moment donné, il a été complètement secoué par cela et la région de la Décapole, là où c'est qu'il était, eh bien, les gens voulaient que Jésus parte. Hein. Tu as fait trop de dégâts ici dans notre région, avec les pourceaux, maintenant on part. Cet homme voulait suivre Jésus, Jésus lui a dit non, reste ici, va témoigner là où c'est que tu te trouves. Et ça montre bien que le Seigneur n'accepte pas toujours nos demandes quand nous les faisons. À Jésus. Nous allons aujourd'hui voir la troisième et la quatrième victoire que le Seigneur a donnée à une femme qui avait une grande maladie, et puis nous allons voir aussi la résurrection de la fille de Jairus, donc aussi cet homme qui était chef de la synagogue, de là où se trouvait en Galilée les disciples, et bien le Seigneur va aussi libérer. Donc on va regarder, si vous voulez, le premier passage qui se trouve donc Marc chapitre 5, et nous allons lire les versets 21 à 34. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut bien lire ce passage? Marc chapitre 5, versets 21 à 34. Et après, on lira à la fin du chapitre 5, versets 35 à 43. Qui veut lire ce passage? Oui, vous dites. Oui.
Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Quand il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais était allée toujours en chemin. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que Jésus passait en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. »
Voilà. Juste la première partie, donc, cette femme qui avait une perte de sang. Donc, comme je le disais D'abord, il y avait beaucoup de gens, en tout cas dans la région aussi qu'il était, dans la décapole, qui voulaient voir partir Jésus. Mais là, nous voyons dans ce passage, en introduction, qu'il y a certaines personnes qui attendent Jésus, qui veulent le voir, qui même le pressent, je dirais, pour être à côté de lui. En tout cas, c'était le cas pour ces deux personnes. Nous avons un chef de la synagogue, donc Jaïrus, qui lui va se jeter aux pieds de Jésus pour l'implorer par rapport à sa fille. Et puis il y a une autre femme, là, qui est là, toute discrète, qui elle veut faire les choses discrètement, sans faire de grands fanfares, sans être vue par qui que ce soit. Elle veut être guérie, elle pensait dans sa tête qu'elle allait être guérie, simplement en touchant le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs contrastes là que je voudrais vous faire remarquer dans le texte, et puis on va essayer de rentrer un petit peu dans les détails dans ces deux histoires que nous avons ici, et de voir où ces deux personnes ont eu la victoire pour la dame qui s'est approchée de Jésus. Eh bien, elle a eu la victoire sur la maladie, et Jaïrus, bien sûr, a eu la victoire que sa fille a été guérie. Tout d'abord, Jaïrus était un chef religieux de l'époque. Vous savez, s'approcher de Jésus en tant que peuple, ça n'avait pas beaucoup d'incidence. Mais quand on était un chef de la synagogue, c'est-à-dire respecté, et les pharisiens et les scribes de l'époque n'appréciaient pas du tout Jésus. Et ceux qui se sont approchés, en tout cas plusieurs exemples nous montrent dans la parole de Dieu, eh bien nous pensons dans notre esprit, même si les choses ne sont pas dites clairement dans la parole de Dieu, eh bien nous pensons dans notre esprit que ceux qui faisaient ce genre de démarche, eh bien pouvaient automatiquement être reconnus, parce que souvent certains le faisaient publiquement, ils venaient voir Jésus publiquement, c'était le cas pour Jaïrus. Et Nicodème l'a fait la nuit, donc personne peut-être était au courant, mais quand on prenait position, en tout cas publiquement, en public, eh bien j'imagine un peu les conséquences qu'il pouvait avoir lieu par rapport à cette prise de position. En tout cas, le chef religieux de l'époque, le chef de la synagogue, il est venu publiquement auprès du Seigneur. La femme, elle est venue anonymement, c'est-à-dire sans se dire ce qui elle était, et elle voulait faire les choses dans la discrétion. Deuxième chose, c'est que dans le contraste, dans ce texte, Jaïrus était sur le point de perdre une fille qui avait 12 ans. 12 ans de merveilleux bonheur qui l'ont accompagné. Et j'imagine que la perte, ou même je dirais la souffrance de cet enfant, eh bien, a dû vraiment bouleverser ce responsable de la synagogue, qu'importe là où c'est qu'il était, qu'importe sa position. En tout cas, il s'est approché du Seigneur Jésus-Christ par la foi, et c'est ce qui est important. Deuxième contraste par rapport à Jaïrus, c'est que cette femme, elle était atteinte d'une perte de la maladie, en tout cas depuis 12 ans de malheur. 12 ans de bonheur pour Jaïrus, 12 ans de malheur pour cette femme. Le texte nous dit qu'elle a dépensé tout son argent. Elle n'avait plus rien, c'est-à-dire elle a dû aller voir tous les spécialistes de l'époque. Elle a dû faire des kilomètres pour aller voir tous les médecins de l'époque. Et j'imagine que ces gens qui la recevaient devaient lui dire « Hé, il n'y a pas de sécurité sociale ici. Il faut payer. Il n'y a pas en poulet ni en neuf de quoi. Non, non, il faut payer. » J'imagine que cette personne a donné tout ce qu'elle avait, et à chaque fois qu'elle ressortait de chez le médecin, eh bien, malheureusement, aucune possibilité d'être guérie par ces hommes-là. Deuxième contraste aussi que nous voyons dans la parole, Jaïrus était un homme riche, elle était pauvre. Et nous voyons que le Seigneur s'est intéressé autant à l'une comme à l'autre. C'est-à-dire que le Seigneur ne fait pas de rente sociale. On voit dans la parole de Dieu que autant un riche qui pouvait s'approcher de Jésus par la foi, autant une femme qui n'avait pas beaucoup qui n'avait pas d'argent, qui pouvait s'approcher aussi, eh bien le Seigneur a été attentif autant à l'une comme à l'autre. Alors on va regarder, si vous voulez bien, au nord d'Anak, puisque je pense que c'est la première histoire que nous voyons dans le passage que nous venons de lire. Donc apparemment, cette femme souffrait d'une hémorragie incurable qui l'a minée, qui était en train de la détruire dans sa douleur, qui l'a découragée, qui la mettait, je dirais, dans une situation vraiment difficile. Elle était considérée par la nation, donc écoutez bien, dans le rang social, elle était considérée comme une personne impure. Tous les religieux de l'époque la considéraient comme une personne impure par rapport à sa perte de sang. C'est Lévitique chapitre 15, verset 19 et suivant, qui nous le dit, c'est-à-dire qu'une personne qui était comme ça, elle n'était pas bien considérée. Donc elle allait voir les médecins, elle n'était pas bien considérée, elle n'était pas aidée par les médecins, mais en plus elle allait voir les hommes religieux de l'époque, et les hommes religieux lui disaient « tu es impur ». Donc ton rang social, c'est vraiment l'impureté, donc un poids pour cette femme. Mais par la foi, elle voulait s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Elle avait peut-être toutes sortes d'idées par rapport à son approche vis-à-vis du Seigneur, peut-être toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire publiquement, c'est-à-dire que dans son cœur, comme elle pensait qu'elle était impure, et les hommes religieux lui disaient qu'elle était une personne impure, eh bien, elle disait, moi je vais m'approcher de Jésus, mais le faire discrètement. En plus, son approche était discrète, c'est-à-dire qu'elle voulait le faire par derrière, c'est-à-dire simplement dans sa tête, elle disait, si je touche uniquement que son vêtement, je vais être guéri. Et peut-être aussi d'autres choses sont venues dans son esprit à ce moment-là. Certains commentaires pensent que peut-être elle avait un peu aussi l'esprit superficiel, hein, de dire de ne pas affronter le Seigneur Jésus-Christ publiquement et de lui faire une demande publiquement, mais de venir en discrétion simplement pour toucher le vêtement. Vous pouvez bien imaginer une sorte de choses qu'elle avait dans son esprit. Mais elle n'a pas été déçue, ni par son attitude pour s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, ni par le fait, parce qu'à un moment donné, simplement le fait d'avoir touché le vêtement du Seigneur Jésus, eh bien, ça l'a complètement guéri. Alors, on peut se poser ce genre de questions. Quel genre de foi avait-elle? Peut-être une foi faible, puisqu'elle ne voulait pas le faire publiquement. Timide, sûrement, puisqu'elle voulait le faire dans la discrétion, superficiellement, possible. Hein, simplement le fait de toucher le vêtement dans sa tête, elle disait, ben, si je touche simplement le vêtement de Jésus, je vais être guéri. Mais soyons honnêtes, si vous connaissez la parole de Dieu, si vous continuez un petit peu plus loin dans le même évangile, d'autres personnes à un moment donné vont le faire, c'est-à-dire que Jésus va s'asseoir sur une place publique et Jésus leur a dit, touchez-moi uniquement le vêtement et vous allez être guéri. Donc vous avez ce genre de choses un petit peu dans le même évangile. Donc j'imagine que le Seigneur ne faisait pas toujours comme il le faisait par habitude de certaines personnes qui venaient le voir et qui venaient s'agenouiller devant lui. Donc sa détermination n'a pas été déçue et je pense que c'est une très bonne leçon pour nous. Quand on s'approche du Seigneur Jésus par la foi, même si elle est faible notre foi, eh bien nous devons nous approcher du Seigneur par détermination. Quand on demande quelque chose au Seigneur, il faut le faire avec détermination. Et je dirais à la rigueur, même parfois dire dans notre tête, si simplement je pouvais toucher le vêtement du Seigneur Jésus-Christ, cela me suffit. On voit dans la parole de Dieu que des gens ont manifesté une grande foi, mais d'autres avaient une foi un petit peu simple et timide. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester cette foi que nous avons dans notre cœur. Et c'est ça qui compte. L'essentiel, c'est de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la question que je voudrais vous poser ce matin, pourquoi Jésus s'occupa d'elle publiquement? Au fait, le texte nous dit que dès qu'elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus s'est retourné, qui m'a touché? Je me dis, et le Seigneur Jésus l'aurait pu dire, bon ben, comme les disciples l'ont dit, hein, écoute, il y a de la foule qui te presse, hein, il y a plusieurs personnes qui te touchent, et tu vas dire qui t'a touché. Et je pense que le fait qu'il va révéler à un moment donné cette personne publiquement, c'est que je pense que le Seigneur voulait montrer quelque chose à cette personne, et je pense que nous avons parfois besoin, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, que oui, Dieu peut nous guérir, mais ce n'est pas des choses que nous devons parfois penser que c'est mystique, ou des choses qui sont parfois discrètes, ou des choses superficielles. Non, non. Parfois, le Seigneur a besoin de nous rappeler certaines choses. Alors, première des choses que je vois, en tout cas dans ce texte, il le fait d'abord pour elle-même. Je pense que si le Seigneur se retourne et qu'il pose cette question, je pense qu'il voulait tout simplement que cette personne ne reste pas dans le sens du silence, de dire, ben voilà, j'ai touché le vêtement du Seigneur, ça m'a suffi, ça a guéri. C'est le merveilleux regard de l'amour de Dieu, je dirais pour le témoignage, je dirais public d'une personne. En tant qu'enfant de Dieu, je pense que, comme cette personne, on a besoin de se le rappeler, que quand on témoigne de l'Évangile, quand le Seigneur a changé notre vie, dans notre cœur, si le Seigneur l'a fait, s'il est venu changer votre cœur à un moment donné, il faut témoigner publiquement devant les personnes qui vous entourent, devant votre voisin, devant vos parents, devant vos amis, devant les personnes, les collègues de travail. On le dit souvent, on l'a rappelé encore ce matin, mais qui en doute un instant que le monde est en train de changer? Moi, j'ai l'impression qu'au plus on avance, au plus les choses que nous voyons horribles vont devenir des choses naturelles. J'ai pas vu ce reportage à la télévision, mais j'ai vu hier un reportage sur l'homosexualité. C'est-à-dire que le péché aujourd'hui, on appelle ça tolérance. C'est-à-dire que ce que la Bible dit que c'est un péché, ou même si nous prenons demain de dire, ben voilà, la Bible dit ceci, donc je suis d'accord avec ce que la parole de Dieu dit, si vous me le voyez en tant que péché, le monde va dire tolérance. Et cette mentalité aujourd'hui, c'est on veut nous faire accepter des choses dans notre cœur, des choses que nous voyons horribles. Eh bien, l'être humain le voit, lui, comme une tolérance. Comme quelque chose de normal, peut-être, dans le passé. Je ne suis pas étonné d'entendre ces personnes qui disent aujourd'hui, mais oui, ben, demain, si j'ai envie de faire l'amour avec un enfant de 7, de 12 ans, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on condamnerait. Mais, franchement, faites la démarche d'aller en Indonésie, par exemple, ou dans certains pays en Afrique, où il y a, je dirais, une manière de penser qui est complètement différente de la nôtre. Mais ce genre de choses, c'est du courant. Je dirais, on dit aujourd'hui dans notre pays, non, c'est pas mal, ou c'est pas ceci, ou c'est pas cela. Mais dans certains pays, il y a de la tolérance vis-à-vis de ce genre de choses. Il y a des parents qui vendent leurs enfants pour la prostitution dans ce monde. Et l'humanité ne dit rien, tolère ce genre de choses, ne dit strictement rien. Ce que nous appelons aujourd'hui mal, demain on va l'appeler bien, tout simplement parce que on veut nous mettre dans notre tête certaines choses. Donc, un témoignage public, dire « moi je ne suis pas comme le monde, je suis un chrétien », j'ai été libéré par le Seigneur, j'ai été guéri par le Seigneur, je veux que Jésus m'appelle son ami. Hein? Eh bien, je pense que le Seigneur avait besoin de se retourner pour dire à cette personne, voilà, tu m'as touché le vêtement, tu es guéri, mais je veux te montrer mon visage. Je veux te montrer mon visage et je veux te dire que c'est plein d'amour que je te donne cette guérison. Verset 34 nous le montre clairement. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Voyez-vous, c'est une expression que parfois le Seigneur donne, mais quelque part, je me dis, on a besoin d'entendre ça. Tu es mon ami. Hein. Tu as été guéri de la part physique, mais je veux aussi te montrer que tu as été aussi guéri de la part spirituelle. Tu as été guéri dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est un réel encouragement, je suppose, pour cette femme qui a dû partir dans la joie, dans le Seigneur, le fait que le Seigneur l'avait guéri. Il s'occupa d'elle publiquement, non seulement pour son intérêt, mais aussi pour celui de Jaïrus. Moi, je tiens quand même à vous signaler ce que le texte nous dit, et on va le voir un petit peu plus tard, mais le premier à s'agenouiller, c'est bien Jaïrus. C'est pas la femme le faisait discrètement. Le premier à tomber aux pieds de Jésus, c'est bien Jaïrus. C'est lui qui a la foi, n'est-ce pas, pour dire à Jésus, viens, approche-toi, viens voir ma fille, parce qu'elle est en train de mourir, elle est en train de mourir. Donc, quelque part, ça a dû secouer aussi le dire, mais le Seigneur est en train de perdre du temps. Je lui ai demandé de venir, voilà que maintenant il s'arrête, il guérit une femme, mais ma fille est en train de mourir. Imaginez un petit peu la pensée de cet homme qui est en train d'avoir demandé publiquement au Seigneur à genoux, viens, ma fille est en train de mourir. Et pendant ce temps qu'il est en train d'aller à la maison, voilà qu'il s'arrête pour guérir une femme qui, elle aussi, avait besoin d'être guérie. Il devait y avoir aussi beaucoup de choses qui s'est passées dans la tête de cet homme. Et puis Jésus s'occupa d'elle publiquement afin qu'elle ait l'occasion de témoigner et de glorifier le Seigneur. Vous savez, ça m'a fait penser à une psaume qui se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 117, qui dit ceci, que les rachetés de l'Éternel disent ceux qu'il a délivrés de la main des adversaires. Il envoya sa parole et les guérit, et il les délivra de leur angoisse. Qu'il célèbre l'Éternel pour ses bienveillances et pour ses merveilles en faveur des humains. Je viens de lire le verset 2, 20 et 21 de ce psaume. Mais je pense que publiquement, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'en manifester de la reconnaissance des bienfaits que Dieu nous accorde. Si vous n'êtes pas habitué ici, frères et sœurs, vous le ferez pendant l'éternité. Que vous le vouliez ou pas, dans l'éternité, notre bouche, la première des choses qu'elle fera, c'est de louer l'Éternel. Alors, je ne sais pas combien de temps. Si, pendant l'éternité. On va louer Dieu pendant l'éternité. On va glorifier notre Seigneur pendant l'éternité. Mais je pense que nous devons aussi en prendre pour habitude ici de louer et d'adorer le Seigneur. Quand le Seigneur lui dit au verset 34, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. J'imagine qu'elle a dû vraiment partir en paix, n'est-ce pas? Elle a dû repartir chez elle, fini les médecins, fini de gaspiller mon temps chez ces gens-là. Je suis pur maintenant, je suis en paix avec le Seigneur. Elle a dû être vraiment heureuse, n'est-ce pas, de rentrer dans sa maison, guérie des biens que le Seigneur lui avait apportés. Deuxième et dernière victoire, c'est la victoire sur la mort, victoire sur la maladie, victoire aussi sur la mort, puisque vous connaissez l'histoire, la fille de Jaïrus va mourir, puisqu'on va venir lui dire à un moment donné. Alors on va lire le texte, si vous voulez bien, à partir du verset 35 jusqu'au verset 43. Qui veut lire ce passage ? À partir du verset, chapitre 5, verset 35 à 43. Oui, vas-y, Suzy.
Comme il parlait encore, sur le chef de la synagogue, les gens qui dirent, Sa fille est morte. Pourquoi importuner davantage le Dieu? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, pas seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, père de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient le grand cri. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où il était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha kumi, ce qui signifie, tiens fille, il est de toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille.
Merci beaucoup. Vous voyez que ce texte est complètement différent du premier que nous venons de voir. Tout d'abord, il va y avoir là une victoire sur la mort. Je pense que ces pleureurs de l'époque étaient sûrement des spécialistes. Hein, c'est vraiment, on appelait, à mon avis, hein, on devait appeler ces gens-là uniquement quand on avait la conviction que la personne était décédée. Ils devaient être habitués, je dirais, à un claquement de doigts ou à tu me donnes 10 shekels, je pleure. Voilà, tu me dis, il n'y a pas de problème, 10 shekels et puis je pleure. Ils devaient être des spécialistes des pleurs. À l'époque, les chefs religieux, en tout cas, certains du peuple qui avaient les moyens, quand ils enterraient quelqu'un, quand il y avait une personne qui mourait, pour ceux qui avaient du bien, on appelait des spécialistes dans ce domaine. Et on venait pleurer avec ceux qui pleurent. C'est vraiment, je dirais, un peu spécial. En Italie, je suis d'origine italienne, vous le savez maintenant. En Italie, on appelle la fanfare. Quand il y a quelqu'un qui meurt, enfin en tout cas celui qui a un petit peu d'argent, on appelle la calèche avec les chevaux, et on appelle les fanfares. C'est-à-dire qu'on va enterrer la personne avec la musique, en tout cas pour ceux qui ont de l'argent. Je dis bien pour ceux qui ont de l'argent. C'est complètement différent. Ici, on appelle les pleureurs et les pleureuses pour venir soutenir la personne qui venait donc d'être décédé. Et je suppose que la situation, quand ses amis sont venus voir Jaïrus pour le dire « Arrête d'importuner le maître, ta fille elle est morte », imaginez ce qui a dû se passer dans la tête de Jaïrus. C'est lui qui vient s'approcher, le premier, c'est maintenant le nouveau pied de Jésus, d'accord? Pendant ce temps qu'il va dans sa maison, le Seigneur s'arrête. Donc, première station, il s'arrête, il guérit la femme. Deuxième station, c'est les personnes, ses amis proches qui viennent le voir, écoute, c'est fini pour toi. Ta fille, elle vient de décéder. Vous pouvez imaginer dans la tête de ce qui se passe dans la tête de Jaïrus. Vous avez trois déclarations de la part du Seigneur dans ce passage qui doivent aussi nous encourager. Je voudrais vous les montrer en tout cas, ces paroles que le Seigneur a manifestées auprès de Jaïrus. Tout d'abord, la première parole d'encouragement, c'est une parole de foi. Vous avez ça au verset 36 et verset 37. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Je pense que le Seigneur a dû rappeler à cet homme qui est venu le voir, « Hé, tu es venu me voir par la foi, eh bien, continue à me croire par la foi. Ce qui arrive là va montrer la gloire de Dieu, bien, continue à croire comme tu es venu auparavant. Ne t'inquiète pas. Crois seulement. » Vous savez, cette expression, je l'apprécie beaucoup dans la parole de Dieu. Si vous prenez le temps, pendant une année, si vous lisez la Bible, apprenez à les souligner, ne crains pas ou ne t'effraie point. J'ai dit une fois, alors c'est pas moi qui le dis, j'ai lu ça dans un commentaire un jour, c'est John Harry Alexander qui est décédé, qui est auprès du Seigneur. Il a pris le temps à un moment donné de noter ces ne crains pas dans la parole de Dieu, c'est-à-dire il a commencé du début jusqu'à la fin. Et je vous ai dit qu'une fois qu'ils sont écrits de différentes manières dans la parole de Dieu, mais ils sont écrits à peu près entre 365 et 366 fois dans la parole de Dieu. Je suis quelqu'un qui réfléchit un petit peu, n'est-ce pas? Vous avez 365 jours dans l'année. Et même le Seigneur a permis une fois, parce que dans l'année, de temps en temps, vous avez tous les 4 ans, l'année bissextile. Donc 365 jours, à un moment donné, dans une année, tous les 4 ans. Mais Dieu a pourvu, pour vous aussi, aujourd'hui, de dire comme, quand vous tombez sur ces petites paroles, ne crains pas, eh bien, Dieu te dit 365 jours de ta vie, ne crains pas. N'est-ce pas? C'est que il avait besoin, Jaïrus, d'être encouragé par le Seigneur Jésus-Christ. Il avait besoin qu'on lui rappelle tout simplement cette parole de foi. Tu es venu par la foi me voir, eh bien continue à marcher avec moi par la foi, ne crains pas. Premier encouragement, on a besoin, n'est-ce pas, de cette petite parole, parfois dans la parole de Dieu, qui nous encourage, qui nous motive, au lieu de baisser les bras parfois, au lieu d'être découragé par les gens, et qui parfois, même là, c'était sa propre famille, c'est-à-dire ses propres amis qui sont venus les voir, hein, qui l'ont découragé en lui disant, c'est fini pour toi, ta fille, elle est morte, maintenant laisse le maître, ne l'importune plus. Je pense que quand on marche par la foi, eh bien, il n'y a que en lisant la parole de Dieu qu'on peut voir ce genre de parole. Pardonnez-moi de vous le dire, mais ce n'est pas en tapant sur votre smartphone ou votre tablette ou en regardant la télévision que vous allez voir de temps en temps apparaître « Ne crains pas, crois seulement ». À moins que vous aimez la technologie et que de temps en temps dans le film, au lieu d'avoir une publicité qui va venir vous embêter pendant 6 minutes, vous allez mettre un verset de la parole de Dieu sur votre film « Ne crains pas, crois seulement ». On n'est pas encore là, ça viendra peut-être un jour, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Je mettais ça dans mon ordinateur à un moment donné. À l'époque, j'avais un ordinateur, vous savez quand il se met en veille, vous pouvez mettre un verset de la Bible, et moi j'avais mis ces petits mots, à un moment donné, donc quand l'ordinateur se mettait en veille, on avait ces petits mots qui paraissaient devant mon écran. Mais qui a mis ces 3 petits mots dans son smartphone? Qui a mis ces 3 petits mots dans sa télévision ou sur sa télévision? Ou à la rigueur, là où c'est que vous vous trouvez, qui a mis ces 3 petits mots-là? Ben, je pense que ces 3 petits mots-là sont là pour nous encourager. Et si le Seigneur l'a dit à Jaïrus, eh bien ces mots-là sont là pour encourager Jaïrus comme le Seigneur veut nous encourager aussi à nous. Deuxième parole, c'est une parole d'espoir. Verset 38. Ils arrivèrent à la maison des chefs de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et de gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais il dort. Vous pouvez imaginer un petit peu le papa et la maman entendre ce genre de paroles. Jaïrus a dû sûrement être bousculé encore une fois dans sa tête. En tout cas, il a bousculé le peuple, les pleureurs, les amis, ceux qui étaient là. Ils ont eu une réaction. Ils étaient venus parce que le chef de la synagogue les avait appelés, parce que tout simplement, l'enfant était en train de mourir. Leur réaction est naturelle. Ils se moquèrent de lui. On a touché son cœur, hein. Elle est décédée, hein. C'est fini, hein. Si on est là, on nous a payé, elle est morte, hein, l'enfant, hein. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu la réaction de ces personnes qui étaient là. Et le Seigneur va parler non pas à ces personnes qui sont en train de pleurer, il va parler non pas à ses amis, puisqu'à un moment donné, il va les faire sortir, il va parler à Jaïrus et à sa femme. Et il va dire, ne t'inquiète pas, tu es venu me voir, tu t'es approché de moi avec ta foi, tu t'es approché de moi, je vais te montrer, je vais t'encourager, je vais te montrer une parole de foi. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. On a besoin parfois de ces paroles d'encouragement, de savoir qu'un jour dans l'éternité, on reverra tous nos amis, tous nos collègues, tous ceux qui nous ont accompagnés par la foi, qui sont aujourd'hui auprès du Seigneur. Alors la Bible bien sûr dit certaines choses par rapport aux croyants, mais je pense et je crois que la Bible dit clairement que l'esprit, quand on meurt, va auprès du Seigneur pour un croyant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au corps? Eh bien, le Seigneur va le ressusciter et dans, à un moment donné, mais le corps va pourrir, n'est-ce pas, dans le cercueil. Mais un jour, eh bien, le Seigneur va ressusciter tout cela. Des textes de la parole de Dieu nous le disent clairement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 ou 1 Corinthiens chapitre 15 nous parlent de tout cela. Mais un enfant de Dieu est dans l'éternité, c'est-à-dire que quand il meurt, son esprit va directement au ciel. Ça, ça doit nous encourager de savoir qu'un jour, on sera en présence du Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Et ça a dû sûrement montrer à cet homme que, bien, ça c'est justement éphémère. Ce corps est là éphémèrement, mais dans l'amour, le Seigneur va un jour nous ressusciter dans l'éternité. Nous avons besoin de cet espoir aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Troisième déclaration et troisième encouragement, c'est les paroles d'amour et les paroles de puissance de la part du Seigneur. On aimerait aussi les entendre aujourd'hui, verset 47. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi » que signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Verset 42, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Alors, certaines personnes, certains commentaires que j'ai lus cette semaine, on n'a pas là, je dirais, la formule pour les personnes qui meurent sur cette terre. C'est pas parce que vous avez prononcé ces deux paroles, je dirais, en araméen, que toutes les personnes que vous allez imposer les mains, ou je dirais, vont être guéries automatiquement. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle là. C'est pas n'importe quelle personne qui parle là. Et je pense que nous avons besoin aussi de nous le rappeler. C'est pas parce que dans l'Évangile on trouve ce genre de paroles que c'est la magie à l'état suprême. Ah, si le Seigneur l'a dit, ben moi aussi je peux le dire. Ben essayez. Moi je peux vous donner l'adresse si vous voulez de l'hôpital de Montereau. Vous pouvez y aller si vous voulez, vous avez la possibilité de guérir, de réveiller les morts si vous voulez, essayez, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre bien conscience que c'est le Seigneur qui parle là, et je pense qu'il avait envie de montrer autant à Jaïrus, sa femme, qui sont venus à un moment donné au pied de Jésus par la foi, il voulait montrer, bien voilà, tu m'as fait confiance, tu es venu, tu t'es approché de moi, et bien par cette foi, je vais manifester le fait que ta fille va se lever à un moment donné et va être, je dirais, en forme, puisque le texte nous le dit, Jésus leur adressa de fortes recommandations, c'est la fin, pour que personne ne sache la chose, et il dit donc, donne-leur à manger, donc c'est pour prouver que la fille était bien vivante. Hein. Vous savez, des fois avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a des détails hein, dans la parole de Dieu. Ouais, donnez-lui bien à manger, elle est bien vivante. Hein. Si elle mange, c'est qu'elle est vivante. Hein. Mais vous savez, c'est quand on est malade, on n'a plus envie de rien manger. Je ne sais pas si vous avez été malade, vous avez déjà eu la grippe. Moi, quand j'ai la grippe, j'ai plus envie de manger. Ma femme est là, elle prend témoin de ce genre de choses, elle me dit souvent, combien de fois t'as perdu, combien de fois t'as perdu. Quand je lui dis, ben, j'ai perdu 2 ou 3 kilos, elle dit, parce qu'elle n'avait pas mangé pendant 2 ou 3 jours. Mais elle sait bien que quand une fois je me suis levé et que je me mets les pieds debout, alors là c'est terminé. Si le frigo est plein, alors là il est mort le frigo. Parce que si je suis resté 2 ou 3 jours sans manger, moi je peux vous dire que le frigo après il prend la gifle, hein, dans la gifle. Mais ça montre bien que le Seigneur est quand même assez pratique. Et il voulait montrer que bien, à ces personnes qui étaient venues, autant à cette famille, eh bien qu'elle était bien vivante et que le Seigneur l'a bien sûr ressuscité. Alors, ça me fait penser en conclusion ce matin que le Seigneur Jésus a vaincu les dangers. Tout ce qui est nature, le Seigneur a le pouvoir. Et la tempête, quand il a calmé, cela a montré à ses disciples, faites-moi confiance, je maîtrise tout. Toutes les situations que dans votre vie, je suis en train de les maîtriser. Deuxième chose, Dieu a la maîtrise sur les démons. Alors laissez-les là où ils sont les démons. Le Seigneur les maîtrise aussi. Le Seigneur maîtrise aussi la maladie. Et c'est le cas vis-à-vis de cette femme qui s'est approchée. Et en même temps, le Seigneur maîtrise aussi la mort. Après tout, nous avons besoin de nous le rappeler aussi qu'un jour on sera avec le Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité. Je voudrais finir avec un verset de la parole de Dieu pour vous encourager ce matin. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Verset 37 du chapitre 8 de Romains. Juste un petit rappel. Mais dans tous ces combats que vous êtes en train de vivre dans votre quotidien, dans tous ces moments difficiles, dans toutes les circonstances de votre vie, mais dans tous ces combats, celui qui vous a tant aimé est près de nous. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Jésus est avec vous, à côté de vous jusqu'à la fin du monde. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Alors, restons auprès du Seigneur, restons proches du Seigneur. Parfois, il nous arrivera peut-être de se dire, bien, je vais m'approcher de Jésus par ma foi, simple, mais je veux avoir la victoire en Jésus. Alors que nous puissions être le plus proche du Seigneur pour avoir ce moment de victoire dans nos vies.